Logan.
Hardigan présente la trilogie de l'Empire. Tome 2, Père de l'Empire. De Raymond E. Feist et Jan Evertz. Traduit de l'anglais par Anne Vétillard. Lu par Manon Jouin. Chapitre 1. Esclave. La brise faiblissait. De petits tourbillons de poussière se déposèrent sur la palissade isolant le marché aux esclaves. Malgré les courants d'air capricieux, l'atmosphère restait lourde et dense, empuantie par l'odeur d'une humanité confinée et sale, mêlée aux effluves de la vase du fleuve et des ordures pourrissant dans la décharge située derrière le marché. Protégée par les rideaux de son palanquin aux couleurs vives, Dame Mara se rafraîchissait avec un éventail parfumé. Si la puanteur la troublait, elle n'en montrait pas le moindre signe. La souveraine des Akoma fit signe à son escorte de s'arrêter. Les soldats aux armures laquées de verre firent halte et les porteurs en sueur déposèrent le palanquin sur le sol. Un officier, dont le casque arborait le plumet d'un chef de troupe, donna la main à Mara pour l'aider à sortir du palanquin. Le visage de la jeune femme était toujours empourpré. Loujan ne savait pas si la chaleur était la raison de la rougeur de Mara ou si elle était toujours en colère après la dispute qu'elle avait eue avec Jikan avant de quitter le domaine. Le petit Adonra avait passé la majeure partie de la matinée à protester vigoureusement contre son projet d'acheter ce qu'il jugeait être des esclaves sans valeur. La discussion ne s'était terminée que lorsque Mara lui avait intimé l'ordre de se taire. Mara s'adressa à son premier chef de troupe. Loujan, tu m'accompagneras. Les autres attendront ici. Devant l'acidité de sa voix, Loujan se garda bien de plaisanter comme il le faisait habituellement, en frôlant souvent les limites du protocole. De toute façon, son premier devoir était de protéger Mara, et le marché aux esclaves était un endroit bien trop public à son goût. Il abandonna rapidement toute tentative de faire de l'esprit, pour se préoccuper de la sécurité de sa maîtresse. Pendant qu'il observait les alentours, guettant de possibles ennuis, il se disait que lorsque Mara se plongerait dans son nouveau plan, elle oublierait son désaccord avec Jikan. Jusque-là, elle n'apprécierait sûrement pas d'entendre des objections qu'elle avait déjà réfutées en son fort intérieur. Loujan savait que tous les projets que sa maîtresse entreprenait visaient à améliorer sa position au jeu du Conseil, cette lutte de pouvoir enracinée au cœur de la politique Tsurani. Comme toujours, ses objectifs étaient la survie et le renforcement de la maison Akoma. Les rivaux et les alliés de Mara avaient compris que la jeune fille naguère inexpérimentée avait mûri et qu'elle était devenue une pratiquante très douée de ce jeu mortel. Elle avait échappé au piège tendu par le vieil ennemi de son père, Jingu des Minwanabi, et avait même réussi à retourner son plan contre lui, l'obligeant à se suicider dans la honte. Mais, si le triomphe de Mara était actuellement le sujet de discussion en vogue chez les nombreux nobles de l'Empire, elle-même avait à peine pris le temps de savourer sa victoire. La mort de son père et de son frère avait conduit sa lignée au bord de l'extinction. Mara se concentrait maintenant sur l'évaluation des prochains problèmes, tout en continuant à manœuvrer pour assurer sa survie. Ce qu'elle avait accompli appartenait au passé, et si elle s'y attardait, elle risquait de se faire surprendre. Depuis que l'homme qui avait manigancé le meurtre de son père et de son frère avait trouvé la mort, elle concentrait son attention sur la guerre de sang entre la maison Akoma et la maison Minwanabi. Mara se souvenait du regard de pure haine que lui avait adressé Desio des Minwanabi alors qu'elle passait devant la cérémonie de suicide rituel de son père en compagnie des autres invités. Desio était bien moins intelligent que son père, mais tout aussi dangereux que lui. Le chagrin et la haine lui donnaient maintenant des raisons personnelles de continuer la guerre de sang. Mara avait détruit son père au fait de sa gloire, alors qu'il recevait sous son toit le seigneur de guerre pour sa fête d'anniversaire. Puis, elle avait savouré sa victoire en présence des nobles les plus influents et les plus puissants de l'Empire, en accueillant sur son propre domaine la fête d'anniversaire du seigneur de guerre, déplacé pour la circonstance. À peine le seigneur de guerre et ses invités avaient-ils quitté les terres à commun,